Salut les marques et salut les smarts, bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique ou on encense les shows de la WWE. Et qu'on sort, je suis Raphaël, Catch Up is on fire, on n'arrête plus, on fait du NXT, on fait du AEW, on fait des You Talk Too Much avec des invités prestigieux, mais quand même, de temps en temps, bah, il faut bien revenir à la maison, à l'écurie mère, à la mère patrie, au show amiral, à Monday Night Raw. Et je suis donc avec l'ami, le Luchasaurus des podcasts, vous l'aurez reconnu, c'est Tonton Chris pour ce Raw du 10 mai 2021, 40 ans après l'élection de François Mitterrand, événement qui sera très peu évoqué durant ce show, n'est-ce pas, Tonton ?
Salut Raphaël, yeah ! Salut les Marcounets ! Salut les Smartounets ! Salut peuple de catch-up ! Et oui, je suis votre dinosaure masqué qui dit « Je suis le Luchasaurus des podcasts », comme tu l'as si bien dit. Je suis le Tonton Chris, Tonton Catch-up pour les intimes. Merci de m'accueillir dans la Revue Rouge du show Amiral afin de décrypter, d'analyser avec toi ce passionnant feuilleton qui dure depuis 1459 numéros. Monday Night Raw, baby!
Eh ouais, Monday Night Raw, show comme jamais, alors un show historique évidemment, comme chaque semaine.
Oui.
Là, on est c'est le dernier show avant ce fameux pay-per-view WrestleMania Backlash.
C'est le
Go-Home Show. C'est le Go-Home Show, tout simplement. Voilà comment on l'appelle. C'est le terme technique. Voilà. Voilà, c'est le show qui avance.
Je sens qu'on est chaud, patate, pas plus de ketchup. Restez à l'écoute. Et d'ailleurs, si vous êtes arrivé sur YouTube, pensez à vous abonner quoi, là, hein, tout de suite. Hein, pensez-y dès maintenant, tout de suite, dès le début de la review, comme ça, on devient amis immédiatement.
On s'abonne, on tape la cloche. On peut s'inscrire sur Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Voilà. Tiens, c'est
Plus
on met la promo au début. Voilà. Twitter. Voilà. Pour avoir des sondages de ouf de Tonton Chris.
C'est clair, des vignettes de ouf, c'est clair aussi.
Facebook, Instagram, tout ça, catch up. Et ben, on va dire que pendant qu'on fait la promo, la WWE nous remontrait ce qui s'était passé la semaine dernière. Hein. Rappelez-vous, il y a eu un gros main event de Titan entre Braun Strowman et Bobby Lashley, qui a été remporté par Bobby Lashley parce que le bel homme écossais était venu pointer le bout de son nez, envoyer des claymores dans la gueule de tout le monde. Donc, on va évidemment continuer un petit peu tout ça ce soir, puisque ce soir, Bobby Lashley affronte Drew McIntyre, son autre adversaire de ce qui va être le gros triple threat qui sera... Eh ben tiens, qu'est-ce que t'en penses, Tonton ? Est-ce que ça sera ça, le main event de WrestleMania Backlash ? Ou Cesaro Reigns ? Ça devrait plutôt être ça, non, quand même ?
C'est un peu
difficile.
Choix difficile pour commencer cette review. J'aurais tendance à dire que quand même le triple menace... mérite.
Il envoie
de la barbaque là. Même si Roman Reigns est dans le top de sa forme en termes de top heel de la compagnie, mais malgré tout, je me donne le triple menace en favori pour le main event de Backlash.
Ouais, bah, ça serait énorme pour Cesaro d'avoir un main event de pay-per-view, mais
quel bonheur.
Quel bonheur, mais on verra, peuple de catch-up, donnez-nous votre avis, on peut parier. Parce que voilà, nous on est du Winamax, hein, maintenant on parie même plus sur les victoires ou les défaites. On parie qui est en main event, qui est à moitié de show, qui c'est qui met un poteau à la mi-temps. C'est de la grosse cote. Alors, pour commencer vraiment les choses sérieuses de ce show, conséquence ou pas d'une certaine petite révolte qui avait grondé dans les vestiaires féminins de la WWE, je ne sais pas si tu avais suivi cette histoire, je crois que c'est Carmella, notamment, qui avait dit qu'elle trouvait pas normal qu'il faille attendre une heure et demie ou une heure de Raw pour avoir le premier match féminin. Et ben, du coup, on commence par du catch féminin.
Et oui.
Voilà.
Il en faut.
C'est rare. C'est une affiche étonnante puisqu'on retrouve Charlotte Flair avec les championnes tag team, donc Nia Jax et Shayna Baszler, contre Asuka et la fabuleuse Dream Team de Dana Brooke et Mandy Rose. Eh ben écoute, nous n'aurons pas de glissade, nous n'aurons pas de my hole, nous n'aurons pas de conneries de ce genre.
C'est vrai.
Assez vite dans le match, on a un segment où on a un petit trash talking des 3 contre 3. Là, elles sont les 6 au milieu du ring, elles se parlent, elles s'invectivent, elles s'insultent. Et à ce moment-là, retentit une petite musique enfantine. Alexa Bliss et sa poupée Lily sont aux abords du ring sous le titantron, le fameux Alexa Bliss Playground, pardon, c'est pas facile à dire. Et Alexa Bliss qui nous dit qu'elle est juste là pour keep an eye on someone, donc garder un œil attentif sur quelqu'un. Mais on sait pas qui. Ce à quoi Corey Graves nous dit, voilà, ça c'est la WWE, il faut pas se laisser distraire. C'est un bon conseil pour à peu près tous les employés de cette fédération, parce que quand même, on se laisse souvent distraire à la WWE. Bon, le match reprend, les méchantes ont plutôt tendance à dominer, mais tout d'un coup, Shayna Baszler, alors qu'elle veut faire le tag, elle a mal au genou, elle n'arrive plus à tenir sur ses genoux, en fait, elle s'écroule à terre, et elle encaisse le Shining Wizard de Asuka, qui l'a fait perdre. Donc, victoire des gentilles, victoire d'Asuka et de la team Dana, Brooke et Mandy Rose. Charlotte est très vénère, elle fout un gros big boot à Asuka, et pendant ce temps, Alexa Bliss et la petite poupée Lily rigolent aux éclats, qui crée une situation de grand malaise où tout le monde les regarde. Là, les six filles qui viennent de se battre, elles les regardent d'un air. C'est un peu creepy cette histoire. Alors, est-ce qu'Alexa Bliss a marabouté les genoux de Shayna Baszler? Tu crois que c'est ça cette histoire? Qu'est-ce que t'as pensé de cette opener? Est-ce que t'es enfin au moins content de voir Alexa Bliss un peu sortir de son placard là?
Ceci expliquerait cela. Je suis relativement satisfait de voir Alexa Bliss sortir au moins jusqu'au Titan Tron. Elle s'est pas approchée du ring, mais enfin elle sort des bulles de segments depuis d'interminables Raw. Donc si tu veux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, moi j'aspire à la voir dans le ring, mais on le demande depuis des semaines. Donc il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Et c'est déjà ça. Avec Alexa Bliss, en ce moment, j'ai presque envie de dire qu'on va se contenter de ça. Après, un petit match de 8 minutes 40, quand même.
Quand même.
Elles ont eu un petit temps sur un opener d'Euro comme ça, sur le Go Home Show de WrestleMania Backlash. Et bah écoute, c'était pas si mal. Le match, j'ai été plutôt embarqué. Charlotte, Charlotte, c'est pas possible cette nana. Charlotte, je sais pas ce que t'en penses, tu vas le dire après, mais voilà, quand même, elle irradie le ring, quoi. C'est le ring général, quoi. C'est tout, c'est comme ça, c'est point barre, quoi. Et pourtant, Asuka qui est plus haute dans mon cœur que Charlotte, même Asuka, face à Charlotte, on sent vraiment, ouais, la Queen, c'est vraiment pas usurpé pour moi cette appellation. Donc, j'ai envie de te dire que c'était plutôt une bonne surprise cet opener.
Bah moi en tout cas j'ai trouvé ça très inattendu et original. Je sais pas si c'est dû à ces petites voilà ces bruissements qu'il y a eu un peu en coulisses sur les derniers segments des dernières semaines là quand Nia Jax glissait, se cassait la gueule tout ça où on disait que finalement les femmes n'avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent à Raw, c'était un peu mieux. Charlotte je sais pas si c'est là elle a lâché les chevaux avec ce nouveau personnage qui reste dans sa continuité, mais où elle est encore plus bitch que d'habitude, là encore plus prétentieuse, encore plus manipulatrice, encore plus orgueilleuse. Donc ouais, elle transpire le charisme. Et après derrière, effectivement, on n'a pas démérité. Pour une fois que Nia Jax ça a pas fait effectivement des conneries et les autres. Bon, c'est assez classique, mais on a pas mal de, on a des gens. Ben justement, c'est un peu le finish du match, mais c'est beaucoup des histoires de genoux, tout ça, parce que Mandy Rose et Dana Brooke, elles cognent pas mal aussi avec les genoux. Shayna Baszler aussi, bon, c'est. Par contre, je pense pas qu'on verra Alexa Bliss catcher de sitôt, je crains que ça soit encore pour un petit moment, et alors là, c'est vrai que. Perplexité, mystère total, si vraiment elle cible Shayna Baszler, mais ça me paraît être une fausse piste, ça. Il va peut-être y avoir encore deux, trois trucs comme ça va peut-être arriver à Nia Jax ou à d'autres, quelqu'un qui se casse la gueule ou qui sent plus son corps ou je ne sais quoi, mais j'espère que c'est pas. J'espère me tromper parce que si on part sur des trucs un peu surnaturels mais in-ring, en général, c'est pas très bien. Donc
Non, non.
ouais, je sais pas trop là, hein.
Non, je pense qu'effectivement, il faut qu'on évite ce genre d'artifice et il faut qu'elle revienne dans une feud de catch un peu plus traditionnelle. Moi, j'ai toute confiance en Alexa Bliss, hein. Il y a vraiment pas de, j'ai pas de problème avec elle.
Ouais, mais les bookers.
C'est oui, voilà, le problème qu'on a à catch-up principalement, de toute façon, ça se passe au niveau des bookers la plupart du temps. Écoute, on va voir la suite. J'ai envie de dire que ça a aiguisé ma curiosité, qu'elle ait déjà au moins franchi la Gorilla Position et qu'elle soit arrivée sous le Titan Tron. Espérons la semaine prochaine qu'elle apparaîtra entre les cordes.
Ouais, et puis je suis très. Ouais, je me questionne parce qu'elle arrive un peu là au milieu de la Tag Team Division, je ne sais pas si. J'aimerais bien qu'elle nous ressorte sa copine Nikki Cross quand même du
Ah
carton,
ouais,
mais je
la
suis pas sûr
pauvre
que ça.
Nikki.
Ouais. Pauvre Nikki, on pense fort à elle, hein.
Ouais, c'est clair, une pensée du patron, hein, je pense à IRM, hein, pour Nikki Cross qu'il avait rencontré aux States. Voilà, on est triste de ne pas l'avoir à l'antenne et on lui fait des bisous.
Ouais, comme quoi, rencontrer Irem, c'est pas forcément un gage de réussite derrière.
Bah non, c'est un mec qui botche à balancer des pancartes où il manque
Ah, je sais.
un C, un C. Un C à 4, c'est emmerdant quand même.
C'est emmerdant. Pendant ce temps, puisqu'on en est à parler des mecs qui botchent en coulisses, Matt Riddle, il rigole avec le New Day de la semaine dernière, les histoires des tomates pourries dans la gueule de Randy Orton. Hein. Sauf
Ouais,
que
ouais, ouais.
Randy Orton est juste derrière et c'est pas du tout drôle pour lui. Lui, il nous dit, Randy Orton, que son humour préféré, c'est plutôt les sketchs de Louis de Funès, c'est plutôt Bourville, les vieux films français. Non, c'est pas vrai. Il préfère briser des carrières, détruire des légendes et foutre le feu à des gens. Voilà.
C'est bien résumé.
Matt Riddle, il a pas l'air d'être sur le même humour. Alors, on a beaucoup de segments vestiaires. Hein, MVP qui fait vraiment de la détractation backstage. Alors, MVP, son gros truc, c'est d'essayer de convaincre Braun Strowman de se rallier à ses côtés pour se mettre à deux pour détruire Drew. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais MVP, il préfère détruire Drew McIntyre de l'équation plutôt que Braun Strowman. Donc, il va très loin. Hein. Il dit quand même à Braun Strowman, oui, d'après Bobby Lashley lui-même, bah Bobby, il aurait peut-être perdu la semaine dernière s'il n'y avait pas eu Drew McIntyre. Donc, il admet presque une infériorité. Et puis, il lui dit, voilà, Bobby, s'il doit perdre son titre, il préfère le perdre à toi qu'à Drew McIntyre. Bon, beaucoup de pommades. Au final, Braun Strowman, qui reste toujours assez stoïque et un peu barbare, qui dit pas grand chose. Visiblement, il obtient pas trop gain de cause, MVP. Mais on aura plusieurs segments. On va revoir Bobby Lashley et MVP se faire interviewer. En tout cas, voilà, ils aimeraient bien qu'il y ait quelque chose qui se passe ce soir et qu'il n'y ait pas forcément un triple threat à l'arrivée. Ça manigance, hein.
Ça manigance sévère. Ça complote.
Ouais. Voilà, je sais pas si tu avais quelque chose à dire
Non,
là-dessus.
non, 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 t'as parfaitement résumé la situation, donc on va revoir ça par la suite. Donc tu peux enchaîner, mon cher Raphaël. Yeah.
Alors on va enchaîner, on va faire un petit peu par rubrique là comme on fait, on va passer au deuxième match de la soirée. Alors grosse surprise, si elle n'avait pas été un petit peu éventée par ce qui s'est passé à Main Event, pas le Main Event du soir mais le show Main Event, nous avons le retour d'un bel homme tout costaud avec un gros nez, des veines saillantes et un petit air méchant. Jinder Mahal est de retour à Raw après combien de temps? Je sais pas, tonton, t'as le timing? Un an
Je
et demi?
crois qu'il n'était pas apparu. Un an, peut-être un peu moins que ça.
Hein. Un peu moins?
Je dirais qu'il n'était pas apparu depuis novembre ou décembre 2020.
Ah, peut-être.
Il était peut-être apparu. Mais si, mais attention, attention, je précise. C'est le dernier show WWE auquel il est apparu. C'était un show qui se déroulait en Inde. C'était le spectacle, je ne sais plus quoi. Le show spectacle ou quelque chose.
Ah oui, oui.
Voilà.
Exact.
C'était la dernière fois qu'on avait eu trace, et effectivement, ce Jinder Mahal, Moderna Maharaja, et ben, il avait fait un petit coup à Raw à Main Event, tu as bien raison. Donc, et il va nous faire un peu un bis repetita dans ce Monday Night Raw.
Ouais, c'est à peu près ça. Donc, il revient avec les Singh Brothers, à qui il a donné une pilule de testostérone à chacun. Donc maintenant, ils s'appellent Veer et Shanky, ces deux acolytes. Ils sont très costauds, ils sont grands, ils sont indiens, évidemment, bien sûr. Ils ont la tenue du Maharaja. Et donc, Jinder Mahal vient affronter Jeff Hardy. Alors, on nous rappelle, c'est vrai que j'avais un peu oublié qu'il y avait un petit passif entre les deux hommes. Hein. Jeff Hardy avait battu Jinder Mahal. Lui a pris son dernier titre, je pense. Le titre intercontinental ou US, je ne sais plus exactement. Intercontinental, je crois. Donc, le match...
Fact-checking, peuple de ketchup.
Ouais, fact-checking, peuple de ketchup. Donc, un match court hein, que Jeff essaye de prendre à la domination d'entrée. Hein. Il envoie des dropkicks, mais il encaisse assez vite un big boot, une grosse souplesse de Jinder Mahal. Bon, le twist of fate passe quasiment, mais quasiment, ça compte pas dans le catch. Jinder évite le twist of fate. Il envoie son finisher célèbre, le fameux Kalos. Et il gagne, donc voilà, Jeff Hardy qui lui aussi n'avait pas été vu depuis longtemps. Bon, petite prestation pour Jeff. Par contre, là, on a un Jinder qui a l'air motivé, énervé. Est-ce qu'ils vont pas finir par nous la faire, cette retour de FUD un peu en main event avec Drew McIntyre qui ne réclame que ça voilà, la deuxième vague là, du variant indien, après ce fameux règne historique en 2017, si ma mémoire est bonne, ou 2018. Revoici Jinder Mahal dans le haut du panier, tu crois?
Le revoilà, le Jinder Mahal, quoi qu'il arrive. Écoute, ouais. C'est pas forcément pour me déplaire de la manière dont ça nous a été amené. Alors oui, comme toi, j'avais été éventé avec ce qui s'était passé à Main Event.
Donc, l'impact était moins fort. Mais du coup, si j'avais pas eu ce spoil de Main Event, peut-être que je l'aurais pris avec encore plus de plaisir que ça. Je suis totalement satisfait de constater la tag team des deux Molos qui évoluaient à NXT, qu'on n'a que très peu vu à l'arrivée. Et je trouve ça super intéressant. Voilà, un vrai clan heel, comme il faut, qui est taillé pour la route, pour le marché indien. Ça me paraît une très bonne initiative d'avoir un heel comme ça, très gimmické, qui débarque, qui est stéroïdé as fuck, qui est pas très bon dans le ring, mais qui en promo peut se permettre de parler indie et puis ça passe crème. Donc, peut-être, peuple de ketchup, à votre grande surprise, le retour de Jinder Mahal ne me cause pas souci, ne me cause pas perturbation, ne me plonge pas dans perplexity.
Tu supportes le indie wrestling de toute façon.
Tout à fait. Hashtag defend French wrestling, defend indie wrestling.
Ben écoute, je vais peut-être surprendre le peuple de Ketchup, mais moi aussi j'ai trouvé que ça a été bien fait. Pourtant, Dieu sait que je suis très loin d'être un fan de Jinder Mahal. Je serais même plutôt
Mais
partisan
pareil.
de l'avoir retrouvé dans une charrette à la place s'il avait fallu l'échanger contre un Rusev ou même un Heath Slater
Samoa Joe.
Ou ça, oui, voilà, bien sûr. Mais bon, j'ai trouvé que c'était bien fait, effectivement. Moi, j'aime bien quand ils mettent un peu son côté plutôt indien. Voilà, j'avais beaucoup aimé d'ailleurs sa fameuse célébration de titre là, quand ils nous avaient fait toute la danse indienne. Le trio est bien. Je suis curieux de voir les deux autres. Hein. C'est vrai qu'on a beaucoup de géants ces temps-ci d'ailleurs. Je sais pas si tu le constates, hein, qu'ils soient nigérians ou indiens qui débarquent, dont on n'a pas trop vu de prestations, même à NXT. Ça peut être impressionnant. J'appelle de mes voeux une petite feud contre Drew. Ça me dirait bien hein, pour clore un peu l'histoire, ou contre Sheamus pour la ceinture. Pour la ceinture US, je ne sais pas, j'ai pas envie de le revoir en main event et je suis pas sûr qu'avec les Bobby Lashley et les autres, il y ait une place, mais c'est un mec qui peut faire sa place s'il comprend effectivement qu'il a bien plus intérêt à jouer sur la personnalité que sur le talent in-ring, parce qu'il faut pas se leurrer, on n'a pas affaire a priori à une grande flèche, à moins que ça ait changé, mais par contre, il peut effectivement être un peu l'équivalent d'un Corbin là qui arrive, qui main event de temps en temps, comme le King
Mais pour
Corbin nous a fait
moi,
un bon SmackDown, ouais.
Jinder Mahal dans la carte, c'est plus haut que Baron Corbin. Hein. Désolé pour les aficionados du King Corbin, mais
Signalez-vous.
je suis quand même plus convaincu
Oui.
par l'arrivée d'un Jinder Mahal. Surtout, je le répète, avec les deux behemoths
Ouais.
qui vont faire du dégât, qui vont taper fort et qui vont m'arraver dans tous les sens. Donc, Jinder Mahal va tricher, Jinder Mahal va être veule. Jinder Mahal va placer du calas et Jinder Mahal va casser des mâchoires du coup.
C'est bien possible. D'ailleurs, je faisais le parallèle, mais est-ce qu'on n'a pas cette arrivée des colosses dans la scène tag team? Parce qu'on a aussi ben, les champions qui sont colossaux, n'est-ce pas?
C'est
Tonton
ça.
Christ. Et voilà, les champions, ben justement, on les croise en coulisses. Elias et Jackson Ryker, ils veulent balancer des tomates sur la gueule du New Day. Sauf que ce soir, ils ont un match à 4 contre 4 et ils sont en équipe avec les champions, avec Omos et AJ Styles. Mais AJ Styles, lui, ça lui fait pas du tout rire, les tomates. Là, il dit c'est nul, nous on est sérieux. Et Omos nous fait une magnifique démonstration de force en écrasant une tomate de ses mains, en expliquant qu'il va faire la même chose à ses adversaires. Et donc, nous avons un match avec le New Day et la team RK-Bro, les fameux nouveaux grands copains, contre les champions par équipe. Et le duo guitariste. Donc un 4 contre 4 où ben, Omos ne commence pas le match, mais il va très vite se taguer à l'intérieur du match. Et il détruit en les jetant dans tous les sens et Matt Riddle et les deux membres du New Day. Orton, lui, observe. Hein, il ne se lance pas dans la bataille. Il observe fourbement. Là, on a une coupure pub. C'est ça qui est formidable avec la WWE. Ça nous permet de créer une ellipse temporelle. Et quand on revient, ben, c'est Elias qui travaille Matt Riddle avec Jackson Ryker. Ensuite, les mouches changent d'âne, comme on dit. C'est AJ Styles qui va être pas mal enchaîné par le New Day. Ils vont lui faire un petit peu tout ce qu'ils savent faire. Gros crossbody de Kofi Kingston. Puis c'est Elias et Ryker qui vont travailler Xavier Woods ce coup-ci en lui faisant pas mal de spinebuster. On a un hot tag avec Matt Riddle qui débarque, qui fait d'ailleurs son Broderick sur Elias. Un peu sorti de nulle part, hein, un finisher surprise. Mais Omos arrive. Il détruit Riddle, il envoie dans tous les sens. Pendant ce temps, le New Day fait une espèce de prise bizarre à l'extérieur du ring en tordant, en tirant les jambes d'AJ Styles au sol. C'est un peu ridicule. Du coup, Omos, il descend du ring pour aider son chef, en quelque sorte. On sait plus trop qui est légal, qui est pas légal. En fait, Orton avait réussi à se taguer in. Et Elias, lui, qui venait d'encaisser le Broderick, a à peine le temps de se relever qu'il encaisse un RKO. Et on porte le score du RK-Bro à 3-0. La streak continue. Et Randy Orton fête ça en faisant deux gros RKO de plus sur Xavier Woods et sur Kofi Kingston, ses partenaires du soir. Matt Riddle, il y échappe, mais il n'est pas content quand même. Il dit, pour reprendre Bourvil dont on parlait tout à l'heure, dites donc, ça se fait pas bien, ça. Orton, voilà, c'est une vipère, et la vipère, c'est ce qu'elle fait. Qu'est-ce que t'en penses, tonton? Voilà, that's what I do, pourrait dire Randy Orton. Hein.
Si tu me le permets, je veux juste faire un rewind pour avoir une pensée pour un homme auquel on n'a absolument pas parlé dans le segment précédent. Comme s'il il avait été effacé comme ça. Lui aussi, il est tombé dans une faille spatio-temporelle. C'est Jeff Hardy. Parce qu'on a oublié de dire que Jeff Hardy, il a servi de paillasson pendant 3 minutes 25. On n'a pas oublié de le dire, mais il a servi de paillasson pendant 3 minutes 25 à Jinder Mahal. Et Jeff Hardy se retrouve jobber à Main Event et à Raw quand on connaît la gloire, quand même, qu'a eu Jeff Hardy pendant toutes ces années. On se dit que le pauvre, même nous à Catch-Up, eh ben on en oublie d'avoir un mot pour sa descente aux enfers. Voilà, je referme la parenthèse. je reviens sur ce match. Écoute, voilà une petite chose dans ce Monday Night Raw que j'ai beaucoup aimé, moi. C'est bien, bien, bien passé ce 8-man tag team match 12 minutes 20. C'était cool. Randy Orton qui est du côté lumineux de la force. Riddle qui fait des bêtises. Les New Day qui balancent leur spot fest habituel dans chaque match, de toute manière, les New Day, ils délivrent la marchandise. Et tu connais mon affection, de toute façon, pour nos amis AJ Styles et Omos, avec oui. Cette alliance presque inattendue avec Elias et Riker, là, un peu de fortune, mais qui permet d'activer, on l'a déjà signalé tous les deux la semaine dernière, de mieux en mieux cette Tag Team Division à Monday Night Raw. Du coup, un trios match en plus. Enfin, même, c'est même pas un trios match, je dis des bêtises, c'est un eight-man.
Ouais.
Donc, 4-4. Du spectacle. Au final, opération réussie avec tous les segments autour et tout ça. Je considère que ça a été bien vendu. Et je note, j'avais déjà noté l'effort la semaine dernière. Je le confirme. Cette semaine, la Tag Team Division de Monday Night Raw va mieux.
Ah, on a une belle... Une belle démonstration. Alors, juste pour revenir sur ta parenthèse que tu as fermée, oui, mais pas grand-chose à dire sur Jeff Hardy. Hein, je crois qu'on en a déjà beaucoup parlé. C'est-à-dire que d'un autre côté, quelle tristesse de le voir à ce niveau-là. De l'autre, je ne suis pas sûr qu'on puisse espérer grand mieux, moi, pour une fois. Alors que je suis plutôt, en général, j'ai plutôt envie que les mecs restent à la WWE et qu'ils soient bien utilisés plutôt que les imaginer partir. Mais si vraiment il y a son frangin à la AEW, j'ai presque envie de dire qu'il ferait mieux d'y aller. Il pourra pas avoir beaucoup mieux à la WWE, mais j'ai quand même toujours l'impression qu'il y a un... Tu vois, il est squatché, mais il fait 2-3 moves. Il est pas... Il y a une sorte de petite pudeur, je trouve. Il est pas tout à fait humilié, quoi. Il est pas... C'est pas encore Mansour, qu'on ne verra pas, d'ailleurs, cette semaine. Ou Mustafa Ali, mais...
Spoiler.
Ouais, spoiler, mais on est un petit peu gêné. Moi, j'ai bien aimé le 4 contre 4. Ça fait un petit moment que toutes ces combinaisons d'équipes se tournaient autour. Alors, j'espère qu'on en a fini avec la storyline des tomates, hein, parce que je trouve que c'est un gâchis. En plus, c'est pas tout à fait la saison, sauf que en Floride, si, remarque, ça doit être la saison des tomates tout le temps. Et je suis assez curieux de voir c'est RK-Bro qu'on a envie de voir contre les champions, là, voir un petit peu ce que ça donne, parce que Randy Orton s'est pas frotté du tout à Omos, hein, ils se sont évités. Enfin. Surtout Orton qui a évité l'autre. Mais ça m'intéresse. Après, je trouve que la conclusion était exactement ce qu'il fallait faire parce que Orton, il y a quand même 3 mois, c'était un salaud effectivement qui foutait le feu. Donc, si on n'avait pas fini par cette séance de RKO et qu'il avait gentiment serré la main à Kofi Kingston, moi, ça m'aurait déçu. Donc, je trouve que tout ça s'emboîte bien et tout à fait légitime. On a également trouvé un très beau rôle, je trouve, à Elias en le foutant dans cette division. Donc, comme tu dis. Voilà, Division Phoenix, ça renaît un petit peu de ses cendres. On parle de phénix, alors on va enchaîner. C'est pas tout à fait un phénix, mais il y a le côté flamboyant, il y a le côté rouquin, il y a le côté Sheamus, le champion US qui débarque, qui fanfaronne un petit peu sur la session de Brock Kick de la semaine dernière. Donc je l'ai dit, hein, je l'ai rappelé, il a envoyé Mansour à la retraite après un seul show, quasiment. Et puis il a détruit le petit Humberto Carrillo. Donc il nous dit, voilà, il nous rappelle pourquoi il fait tout ça. En gros, c'est Adam Pearce qui lui a un peu soufflé l'idée de faire des Open Challenge comme les autres avant lui. Sheamus, il comprend pas trop, hein, l'intérêt de faire la même chose que les autres avant lui. Il veut créer son propre. Sa propre lignée, son propre héritage. Donc il affronte à nouveau Humberto Carrillo ce soir. Alors un match qui commence avec plutôt la domination du petit jeune, hein, Humberto Carrillo. Il envoie des dropkicks, il a bien vu faire Jeff Hardy juste avant. Sheamus qui l'envoie à l'extérieur du ring dans la Bellkeeper Area, là, dans l'endroit où il y a le mec qui sonne la cloche, donc dans les barricades, ça fait mal. Il lui envoie ses 10 coups de la poitrine là, entre les cordes. Il lui fait cette prise que tu aimes bien, là, le Dublin Smile. Là, ça, quand tu tires sur les joues, et ça fait très très mal. Et.
En plus, c'est très difficile à décrire en plus.
Ouais, mais ça, ça fait très très mal en tout cas. Ne faites vraiment pas ça chez vous, ça fait très mal. Et puis, si les cloches sonnent, vous resterez coincés. Et Sheamus, il prend le petit Humberto là sur son dos, il l'amène sur le haut du turnbuckle, on sent qu'il veut lui faire une sorte de white noise, sauf qu'il se fait contrer, il encaisse un hurricanrana, donc là Carrillo il est chaud, il prend Sheamus, il lui fait une sorte de powerbomb. Ah oui, c'est là, j'en arrivais au segment final en fait. Humberto Carrillo il est à l'extérieur du ring, Sheamus il est sur le rebord, sur l'aperon, donc Humberto Carrillo il l'attrape. Il lui fait une powerbomb sur le sol de l'extérieur du ring, sauf qu'il se place mal la jambe et en fait il écrase Sheamus sur son propre genou. Et ben c'est tellement douloureux que là il y a une espèce de flottement où l'arbitre finit par arrêter le match et par donner la victoire à Sheamus parce que ben, Humberto Carrillo n'a pas l'air en état pour continuer ce match. Donc ben, Sheamus s'en sort bien, mais quand même, petite déception, non, là, sur ce finish.
Alors là, absolument aucune déception sur ce finish. Je vais peut-être t'étonner, Raphaël.
Non, ah bon.
Parce qu'en réalité, c'est assez. On a assisté à une grosse blessure en direct, quoi. Et
Ouais.
du coup, ouais, bah, le finish, de toute façon, ça ne pouvait pas terminer autrement. C'est dommage, le match a duré 10 minutes. C'était plutôt bien lancé. Il y a eu des belles phases de la part d'Humberto Carrillo. Il m'a vraiment fait plaisir sur les premières minutes du match. Il a résisté plus que ce que je n'attendais. Sur les deux premières minutes, je me suis dit, ah, il est très offensif. Ouh là là, ça sent le squash. Il va prendre quatre coups, quatre moves, et ça va se terminer. Et puis, pas du tout. Il a résisté, il a résisté. Et puis, il y a eu ce terrible accident. Alors, franchement, j'ai une pensée pour le jeune homme là. Parce que moi, je l'ai vu tout de suite. Hein. Au direct, j'ai vu tout de suite qu'il y avait un problème, quoi. Et comment, une fois après la chute, une fois que Sheamus s'est retiré de sous le genou de Cario, on voit sa jambe en fait qui est voilà qui a un angle qui est pas normal. Oh là 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 là, là. Ah, j'ai frémi pour le jeune homme.
Ouais, les croisés là, je sais pas ce.
Ah là là, je sais pas, mais c'était et d'ailleurs ça se coupe à la vitesse grand V. Hein. On voit juste l'arbitre lever le bras de Sheamus et direct il passe à autre chose. Ils font le replay après quand même derrière parce qu'il faut expliquer plus ou moins. Corey Graves il pousse des cris d'orfraie et il a raison. Et Corey Graves que j'ai trouvé excellent tout au long de la soirée. Et on va en reparler un peu plus tard d'ailleurs. Ah non, non, mais j'ai été hyper impressionné. En fait, moi, tu vois, alors là, voilà un truc sur lequel là, j'ai été vachement impressionné, vraiment humainement parlant, quoi. Là, on n'était pas dans le fake. Là, on a eu une
Ah
réelle
non.
blessure en direct live, un lundi soir, dans le catch. Voilà, ne faites pas ça chez vous. Don't try this at home. On était en plein là-dedans.
Oui, quand je disais déception, je voulais pas dire déçu enfin, déçu humainement pour Carillo, pour le match, pour l'issue du truc qu'on finisse voilà sur un moment bah, qui finalement effectivement précipite une fin de match un peu étonnante, mais qui surtout bah, précipite un peu la. Les prochains mois ou les prochaines semaines, si on est optimiste, je ne sais pas, j'ai pas d'informations médicales, mais Carillo là qui,
Il est foutu! Il est foutu!
je sais pas, mais c'est
Ils vont
mal
le
parti.
piquer!
Ouais,
Ils vont le
mais
piquer à l'AstraZeneca!
bon, ben alors on voit pas l'accabler,
Ah
mais
bah
bon,
non, ah
ouais,
bah non, pas du tout. Alors là, loin
petite
de
erreur de
moi.
placement quand même, je pense, mais c'est vrai que quand tu te prends un,
Non, ah, je suis
non,
pas d'accord avec ça, moi.
je sais
Enfin, en tout
pas.
cas, je vois pas ça de cette manière, là, Raph. Hein. Pour moi, quand ils retombent tous les deux, Il n'a pas de chance, il a les jambes un petit peu écartées. Et Sheamus, il retombe de tout son dos sur la torsion sur la jambe gauche, le genou gauche, c'est bien précis. Revoit l'image. Vraiment, non, il se prend le poids. Et là, on parle du bestias Sheamus.
Ouais.
Il prend 120 kilos sur le genou de volée. Non, là, franchement, je pense que là, c'est totalement accidentel de la part des deux. Et c'était un spot prévu et tout, mais les aléas du direct, les aléas d'un sport dangereux. Et je trouve que c'est exactement raccord. Tu vois, on en a parlé un petit peu avec Ravage lors du You Talk Too Much hashtag 9. Allez le voir, il est en ligne.
Écoutez-le, extraordinaire.
Et il en parle, des bumps et tout ça. De toute façon, on a déjà eu des témoignages de catcheurs à l'antenne avec El Payo ou avec Sturi. Tous parlent des bumps, de ce qu'on ressent dans sa chair et dans son corps et dans ses os. je crois que là, Carrillo et Sheamus. Et puis Sheamus était perturbé, t'as bien vu, à la fin, quand il remonte sur le ring, à aucun moment il fait le fanfaron ou là, il n'a pas d'attitude de heel ou de face, quoi. Il a vu la croix, il a vu. En plus, Humberto Carrillo, on le voit vraiment bien faire le signe, quoi, en faisant non avec la main. Immédiat, quoi. Vraiment, l'arrêt, il est immédiat.
Oui, la preuve, ils n'ont même pas cherché à. Moi, j'ai cru que l'arbitre allait faire une espèce de count-out ou je sais pas quoi. Non, on a dit, allez, Sheamus a gagné, c'est ce qui devait être prévu, et puis on passe à la suite.
Que même pas, écoute, d'après les informations officielles des milieux autorisés qui s'autorisent à penser c'est une victoire de Sheamus par une décision d'arbitre.
Ouais.
Voilà, l'appellation exacte.
Voilà. Bon courage à Carrillo, et puis on verra qui se mettra sur la route de Sheamus. Pour le coup, on dit l'Irlandais très stiff, mais là, il n'y est pas pour grand-chose. Et voilà, comme tu dis, ça nous rappelle un peu à quel point tous ces êtres que nous aimons ou que nous détestons ou que nous aimons détester se mettent en danger pour nous. Donc, vous voyez, même Jinder Mahal, on peut avoir une petite pensée pour lui. Ils se mettent tous en danger, donc ils ont du mérite. Bon, mais le show must go on, tonton.
J'adoube cette pensée.
Merci. Show must go on. Alors, on a deux petites promos pour nous remettre un petit peu dans l'ambiance. Un magnifique clip des Lucha House Party, ça t'as dû être content. Alors, j'ai pas trop compris, honnêtement, pourquoi ils avaient besoin de se représenter, de nous dire qui ils étaient et ce qu'ils faisaient. Mais on a les Lucha House Party qui ont l'air bien décidés à revenir dans le game. Hein, est-ce que t'as bien aimé ça, cette mise en valeur là des deux Mexicains, il y en a un qui parle anglais, l'autre qui parle espagnol, mais voilà, ils sont là.
Devine, bien sûr que je suis content d'avoir les hommes massés, qui ont le droit à une petite promo, un espèce de petit micro-push package vidéo. C'est toujours pas mal.
C'est rare.
Ouais, c'est tellement rare, et ils veulent les rendre un peu plus forts, nos amis masqués. Pourquoi pas, je prends. Hein. Moi, j'espère bien qu'ils vont pas rester à VGT, et cela confirme notre pensée de tout à l'heure, mon cher Raphaël, Division va de mieux en mieux.
Exactement. Et pour te garder sur cette belle joie, le deuxième clip promotionnel ensuite, c'est la magnifique, la sublime, la femme qui est de retour depuis une semaine, Eva Marie, qui est là, qui nous raconte que c'est philosophique. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Eva Marie ? Eh ben voilà, on admire tous les belles photos sur les modèles, sur les mannequins, mais il faut faire plein de mauvaises photos dans une vie pour en avoir une bonne. Et ça, c'est beau, et on aura bientôt la Evolution, et ça donne envie. Hein, tonton ? Ça t'a plu ? Devine ?
Comment te dire ?
Je préfère les hommes masqués.
Quel mot utiliser ? Oui, je préfère largement les masques. Il n'y a pas photo. Je préfère être en compagnie de Ravage dans le studio pour You Talk Too Much qu'avec Eva Marie. Vraiment, je suis désolé Raphaël, hein, mais vraiment ça ne m'intéresse absolument pas. Le segment est passé devant mes yeux, si tu veux, mais j'imagine qu'à ce moment là soit je me suis bu un café, soit j'ai traité quelques sondages Twitter, j'ai pas rien à dire de plus sur ce package vidéo.
Eva Marie n'a toujours pas ton attention. Pourtant, elle fait des efforts.
Non, il y a plein d'autres femmes dans le roster de la WWE qui attirent mon attention. Mais ce n'est pas le cas d'Eva Marie.
Eh bien, écoute, nous verrons peut-être dans quelques semaines un petit peu d'évolution pour cette Evolution. En attendant, là, on va continuer dans le drame parce que des amitiés qui se déchirent, Ça fait toujours mal au cœur quand même, tonton. Non.
Ah, imagine... ça, c'est toujours triste.
Imagine si on se disputait. Imagine si un jour, on fait une mauvaise analyse et puis je te dis, ah, moi qui suis qu'un petit jeune, je veux pas perdre ma belle jeunesse, toi, t'es qu'un has-been, tout ça, ça serait horrible, ça serait horrible. Et bien, peut-être qu'on finirait sur le ring, comme Cédric Alexander et Shelton Benjamin qui vont s'affronter. C'est la peut-être dernière étape de cette triste fin d'équipe des anciens membres du Hard Business. Cédric Alexander qui va faire beaucoup de travail sur la jambe de Shelton Benjamin, il lui tord la jambe un petit peu dans tous les sens, il la travaille, il va faire un suicide dive sur Shelton Benjamin à l'extérieur du ring, il en réussit un, donc il se dit bah, je vais en faire un deuxième, sauf que là il se fait cueillir par un coup de genou de Shelton Benjamin. Cédric il fait ses petites virevoltes là quand il rebondit entre les cordes en faisant une sorte de poirier pour faire son coup de pied. Et tout d'un coup, Shelton Benjamin, qui subissait un petit peu le match, s'énerve, pète les plombs, fait un énorme power slam et remporte la victoire. 1, 2, 3. Alors, un fast count un petit peu, mais... Et ben voilà. Shelton Benjamin gagne, histoire de dire que les vétérans, c'est quand même les patrons, et histoire de rappeler, comme toujours à la WWE, qu'en général, celui qui décide de briser une tag team, et ben, c'est pas la bonne idée, c'est lui qui perd après. Voilà, court match, hein, toujours oui. Déçu quand même de cette histoire, étonné que ça soit Benjamin qui ressorte, on va sûrement avoir encore des matchs, hein, je crois, entre les deux, je pense pas que ça soit le seul de leur feud, mais...
Tu penses bon. Que c'est pas le payoff ?
Je pense pas, je sais pas, c'est bizarre. Hein.
J'hésitais, je me tâtais, et là encore, j'étais perplexity, Ouais, ça serait pas le payoff. Ouais, c'est triste, hein, c'est toujours triste. Hein. Je sais pas si tu y as pensé, mais moi, ça m'a rappelé les Iconics. Je trouve que c'est un peu ça, c'est un peu une storyline qui se termine un petit peu dans la tristesse. Je suis un peu étonné que ça soit le vétéran qui soit mis en avant et qui gagne les matchs. On a finalement encore une bis repetita avec la semaine dernière, mais on va jusqu'au bout du bout sur la fin en consommé entre les deux. Voilà, je regarde ça d'un œil un peu humide.
Ouais, moi je suis un peu... honnêtement, j'ai très peu d'espoir. Genre, on en reparle dans 2-3 mois vers SummerSlam, septembre et tout. Je pense que c'est de là, on les verra plus à l'écran. Hein. C'est le moment où cette feud-là va disparaître. Je pense que Benjamin, il va rejoindre un petit peu les catégories de la ceinture 24-7 qu'on a plus vu depuis très longtemps d'ailleurs. Et j'ai un peu peur qu'on le voit quasiment plus. Ou alors un peu à la Jeff Hardy, il va faire un match de temps en temps... Je sais pas trop ce qu'on peut espérer pour ces deux hommes. Ça aurait pu au moins faire une petite feud un peu dantesque. Je pense qu'on n'en a pas fini parce qu'ils ont l'air d'être très énervés. C'est ce qui nous joue. Hein. Cédric Alexander, il est quand même vénère. Il l'engueule l'autre. Benjamin, là, il a un peu pété les plombs pour gagner. En fait, il s'est sorti un petit peu de sa zone de confort, comme on dit. Donc, j'aimerais bien au moins qu'on ait encore un ou deux matchs où ils nous envoient un petit peu du bois et du joli match, parce qu'après j'ai l'impression qu'ils vont un peu... Je me trompe peut-être, hein, ça se trouve Cédric Alexander gagne Money in the Bank et cash in dans la foulée, mais ça m'étonnerait quand même. Mais j'ai pas très grand espoir pour les deux, vu comment... j'ai peur qu'ils retrouvent le niveau qu'ils avaient avant leur business, quoi, c'est-à-dire pas très élevé. Très bas, même.
Ceci.
Ah oui, ceci est dit, oui. Allez, bon. Voilà, un petit peu de tristesse, tu avais l'œil humide, Eva Marie, tout ça, la fin du Hard Business, c'est triste pour toi, on va te faire plaisir, on va repartir un peu chez les filles, la division féminine. Alors ce dimanche-là, nous allons avoir donc un triple threat entre Asuka, Charlotte et la championne Rhea Ripley. Sonia Deville, elle propose qu'on ait Asuka versus Rhea Ripley ce soir. L'Australienne, elle y voit clair dans le jeu de Sonia, elle a remarqué qu'elle était très copine avec Charlotte, là la manageuse... ou General Manager plus ou moins officiel, mais pas de problème, ok, on va faire ce match-là, donc on a Asuka contre Rhea Ripley, déjà première surprise, hein, un WrestleMania rematch qui est booké comme ça, un peu étonnant, non, mais j'imagine que t'as pas boudé ton plaisir, tonton, à cette annonce.
Ouais, non, ça va, ouais, c'est plutôt cool.
Ouais, bah écoute, ouais, on a commencé le match comme un sprint, hein, j'ai trouvé, où elles se sont... beaucoup évitées, elles se sont rendues coup pour coup, il n'y a pas vraiment eu phase de domination, elles ont tenté des soumissions au milieu du ring que l'une et l'autre ont très vite défait pour passer à se foutre des kicks, des closest line et tout. Tout d'un coup, Charlotte débarque, bon c'était assez prévisible avec sa musique et tout, c'est Asuka qui en profite parce que c'est Rhea Ripley qui est déconcentrée, qui tourne la tête, qui fait tiens donc, Charlotte Flair qui arrive, quelle occasion cocasse, je vais la regarder arriver pendant un petit moment. Et donc Asuka, voilà, lui fout un petit taquet par derrière. Bon, on part à la pub. Quand on revient, comme toujours, Charlotte, elle est arrivée à la table des commentaires. Et là, c'est Rhea Ripley qui domine. Hein. Elle envoie des grands kicks à Asuka qui est au sol. Là, elle lui kick le dos. Elle la relève, elle lui fait des lariats, là, des clotheslines. Ça envoie Asuka dehors. Et Asuka, elle croise le regard de Charlotte. Là, elle se fige un petit peu, tu sais, comme un chat pris dans la lumière des phares. Et tiens, il y a Charlotte qui est là. Et du coup, bah, Rhea Ripley, elle arrive, elle lui fout un gros headbutt, là, un gros coup de boule. Sauf que quelques instants plus tard, rebelote, la réponse du berger à la bergère, comme on dit, c'est Rhea Ripley qui croise Charlotte, qui lui parle, qui lui dit machin, tout ça, faudrait voir pas trop, hein. Et du coup, Asuka lui envoie un gros kick. Alors, beau move d'Asuka, elle s'est mise debout sur la table des commentateurs et elle a couru, elle a envoyé son pied dans la tronche de l'Australienne. On revient au milieu du ring et là, par contre, la japonaise est cueillie par un Riptide, donc presque à la clean, malgré la présence de Charlotte qui. Qu'une intercède pas trop d'ailleurs, hein, c'est plus qu'elle déconcentre les autres, ben Rhea Ripley l'emporte, voilà, à la loyale, et Charlotte regarde, mais vraiment de toute sa morgue, elle toise ça comme si c'était la reine qui regarde les joutes depuis son balcon de sa tour en ivoire. Hein. Est-ce que t'as aimé cette petite baston féminine? Est-ce que t'en attends beaucoup de ce triple threat de dimanche?
Je suis hypé par ce match en deuxième triple menace pour les deux titres suprêmes de Raw. On a quand même deux triples menaces.
Exact.
J'estime que le plateau féminin est très chouette. Ce Charlotte Asuka Ripley, je suis preneur. Je trouve qu'on a eu un match de bonne qualité. On a eu un match de 12 minutes 35 avec une Asuka bien énervée, avec une Ripley dans un personnage, finalement, elle est presque twinner. Quand on voit le positionnement de Charlotte qui est tellement heel dans son attitude,
oh bah oui,
que Rhea Ripley finalement arrive à trouver le passage du milieu. Et elle est au centre, elle fait du en même temps, Rhea Ripley. Mais c'était plutôt sympa. J'étais plutôt emballé par ce truc. Enfin, de toute façon, là, je crois que c'est difficile de ne pas être hypé par le qui va se passer dimanche. Il y a quand même plein d'incertitudes avec le fait que Ripley a le titre depuis peu. Asuka, elle était la championne legit pendant un sacré règne. Charlotte revient, pète tout dans tous les sens. Et on sait très bien que quand il s'agit de récupérer une ceinture, Charlotte, elle est présente. Néanmoins, ne sait pas. Après ce WrestleMania Backlash, peut-être une petite porte ouverte le retour d'une Becky.
Eh ben, Becky qui a officiellement signé un nouveau contrat avec la WWE.
Oui. Voilà. Ah, je vois que tu lis les mêmes infos que moi, mon Raphaël, hier.
Tout à fait. Mais Becky Lynch aussi, qui. Alors, aujourd'hui ou hier, je ne sais plus exactement, mais ça fait un an qu'elle est partie, puisque l'an dernier, Money in the Bank était le pay-per-view juste après WrestleMania. Il n'y avait pas eu de Backlash. Voilà, donc Becky qui voilà, fait le tour du calendrier en arrêt maternité. C'est pas tout à fait une maladie quand même. Elle a l'air très heureuse d'ailleurs avec son petit bébé là. Et moi ce qui me semblerait logique, peut-être trop prévisible, je ne sais pas, mais c'est qu'elle revienne dans le Money in the Bank match, qu'elle gagne la mallette et qu'elle cash in parce que voilà, c'est le moment où elle a arrêté son règne. Mais je suis comme toi, je trouve que le plateau il est parfait, bah, c'est les trois meilleurs, hein, et puis en plus voilà, c'est trois antagonismes entre la 14, 15, 16, 17e, 17 fois championne, 20 fois championne Charlotte Flair, Asuka qui est quand même une fidèle qui a tenu énormément le rang pendant ces derniers mois et ces dernières années, et puis Rhea Ripley qui est quand même, je trouve, vachement bien installée depuis pas très longtemps, mais qui est là, hein, avec ses gros blousons avec des clous et tout là. Donc l'affiche, on peut pas faire mieux. Le début de fête, moi, m'avait pas trop plu. Enfin, les performances de Charlotte au micro, là, qui se plaignait un petit peu, que tout le monde lui avait volé son spot à WrestleMania, blablabla. C'était un peu tiré par les cheveux, je trouve. Mais là, voilà, bon, on se toise, on se regarde, on se tape sur la gueule, et puis on attend le dimanche. Donc c'était un bon match. On est dans un Go Home Show, il faut donner envie de regarder le pay-per-view. Oui. Là, c'est réussi. Et puis, de toute façon... J'ai envie de dire, c'est pas que c'est une valeur sûre, mais les triple threats à la WWE, c'est souvent très bien. Et là, ça peut difficilement être mauvais, je pense.
Je suis d'accord.
Mais il y a un vrai suspense, je suis bien d'accord sur le sur l'issue de la gagnante, et celle qui gagne là sort high level, quoi. C'est, il faudra aller la chercher, la gagnante de ce match-là.
Ah, ça, c'est une évidence. Mais ça prouve bien un peu toute la, tu vois, toute la hype qu'il y a autour de ce match. Il y a du five-star là-dedans. Il y a quand même, regarde, quand tu prends un peu le palmarès de Asuka et de Charlotte, fou, ouais. Ça fait peur. Hein. Ripley, mine de rien, qui a été championne NXT, championne NXT UK, championne d'Euro. Il y a du level dans cette histoire. Les filles montent the bar.
Ouais, et comme ils nous le disent quand elle arrive sur le ring, là, les petits écriteaux qu'il y a sur le côté, là, les petites stats, et Ripley, she's only 24. Hein.
She's et only oui, 24. En plus, ouais, on souligne pas assez son âge aussi, cette demoiselle, c'est quand même assez incroyable. Puis voilà, moi j'adore son theme song. Je trouve que cette fille, voilà, il y a un truc qui se dégage d'elle. J'ai regardé par curiosité ses tout débuts à NXT. Parce que je me rappelais pas trop dans quelles circonstances elle était arrivée, et les premières fois, donc c'était à NXT UK, et je l'ai vue avec est-ce qu'elle était au Mae Young Classic, il me semble, hein, qu'elle était au Mae Young Classic, et elle était blonde avec les cheveux longs, et c'est, va voir ça par curiosité, tu me diras ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'était incroyable comment elle ressemblait à Charlotte à cette époque-là.
Peut-être.
Et après, elle a complètement basculé dans un nouveau personnage. Voilà, la brutalité. Et vraiment, je la trouve vraiment fun, cette nana. Et ouais. comme j'aime Asuka, comme j'aime Charlotte, bah, comment voulez-vous que le tonton ne soit pas hypé?
Bah, il est hypé, oui. Bah, je l'ai vu avec notre ami Christophe Ajus, en plus, en interview. Elle a l'air rigolote, elle a l'air gentille, cette petite Australienne. Mais c'est souvent ceux qui mettent les plus gros blousons de cuir qui sont les plus gentils, au fond. Hein. C'est comme dans la vie, ça. Mais j'espère bien quand même qu'elle va bien envoyer des gros big boots et qu'elle va marcher sur la tronche là, les uns aux autres. Ça va être bien, ouais, ça va être bien. Donc, nous disions que nous bookions WrestleMania Backlash, hein, tonton, on a du boulot là.
C'est ça. Et, on est dans un go home show. Ben, on n'est pas là pour rigoler, voilà. On n'est pas là pour enfiler des perles.
Alors, figure-toi qu'on va avoir une grosse progression, énorme progression, puisqu'en fait, nous avons appris que Damian Priest allait affronter The Miz à WrestleMania Backlash. Alors là, pour le coup... peut-être FUD dont on avait réclamé la fin bien avant, mais voilà, on est toujours dans la poursuite finalement de l'histoire Bad Bunny, hein. Et ce soir on a Morrison contre Damian Priest, et Morrison backstage avec Adam Pearce qui est là et tout, il dit bah, écoute, on a qu'à faire une petite stipu, enfin non, c'est Damian Priest qui dit on a qu'à faire une petite stipu, et puis en fait ce soir celui qui gagne entre Morrison et moi, bah, il choisit la stipu pour, pour le match que j'ai contre le Miz. Donc, le Miz n'est pas très chaud, mais Morrison, il dit, bah ouais, bien sûr qu'on va faire ça, vas-y, on va se taper, on va choisir la stipule, c'est parti. Donc, du coup, on a le match avec un Miz qui est extraordinaire hors du ring, j'ai trouvé qu'il est dans tous ses états, qui bondit à chaque tag, il y a la stipule qui est en jeu. Morrison, alors, moi, je dirais qu'il nous régale, notre ami Papy, dont on donnera les avis, lui, il aime pas, mais voilà, il aime pas trop le style faire la roue, faire la majorette, faire du parcours, là, mais... Capoeira Joe Morrison qui fait quand même des prises assez impressionnantes, j'ai trouvé, là, il fait la roue pour éviter des coups, voilà, il évite, il saute, il part d'un côté et de l'autre, il se prend quand même un énorme uppercut façon Cesaro là, un petit peu de Damian Priest. Le Miz joue son rôle, au début il distrait l'adversaire, il permet à John Morrison de venir prendre un petit peu de repos à l'extérieur du ring, mais bon, Damian Priest c'est quand même un sacré bestiau, il envoie sa série favorite, là, les claques qu'il fait par derrière, là, son coup de pied un peu retourné à la volée. John Morrison reprend le dessus, et puis le Miz, qui est en train de parler à l'arbitre, bis repetita malheureusement de la semaine dernière, le Miz cause involontairement la distraction de l'arbitre pendant que John Morrison avait Damien Priest au sol pendant 3 secondes, 1, 2, 3, on a pu compter. Donc, et malheureusement, Priest va ensuite placer son finisher, son Hit the Light, et l'emporter. Donc, le Miz, il est furieux, il se jette sur Damian Priest, puis quand le gagnant se relève un peu, le Miz, il dit « Non, finalement, je m'en vais, je vais pas trop taper trop longtemps. » Du coup, Damian Priest, il fait un deuxième finisher à John Morrison, qui est décidément l'agneau sacrificiel, et il s'en va dans les coulisses, c'est encore tout transpirant, il part même pas à la douche, il va réclamer « Ah !» Adam Pearce, la stipulation qu'il a choisie. Alors là, roulement de tambour, messieurs dames, après un match d'une telle intensité, on s'attend à Hell in a Cell, in Fire with Barbelé, tout ça. Non, Il veut juste un lumberjack, en fait, Damian Priest, parce qu'il veut pas que le Miz puisse s'enfuir. Est-ce qu'on est un peu déçu par ce choix? Un peu quand même, hein. Damian Priest, c'est un petit nouveau, là. Il faut lui apprendre hein, que nous, on veut des tables, on veut des clous, on veut, je sais pas, des boules de pétanque, mais on veut pas des lumberjacks. C'est pourri, ça.
Des néons, des candlesticks, des punaises. Non, mais là, c'était cheap, la stipulation, là. C'était quoi, ça, là? Ah, non, pchit, ça a fait pchit, là. C'était cheap. C'est pas possible, c'est pas possible. Non, là, j'étais hyper déçu. Alors là, et contrairement à tout ce qui s'était passé précédemment, puisque malgré que moi aussi, je m'attendais un peu au payoff la semaine dernière, ça n'était pas le cas. On a de retour Damian Priest dans le ring dans Feud face à Morrison et The Miz. Alors, je suis tenu par contrat par le rédacteur en chef émérite des Cahiers du Catch, Axel, de ne pas dire du mal de John Morrison. Donc, je dirais que John Morrison a fait un match extraordinaire et que c'était un combat de bonne qualité avec un Damian Priest qui nous est rendu quand même toujours fort puisqu'il gagne et dans un match de 13 minutes 20, s'il vous plaît. Et nonobstant les bêtises sur Axel, les private jokes, j'ai trouvé véritablement le match de bonne qualité. Et je me suis dit, bon, bah, finalement, ça passe cette histoire et ils n'en ont pas fini. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment est booké Damian Priest et vers quoi il tend à aller. On a déjà tous les deux, déjà la semaine dernière, évoqué le fait qu'on l'enverrait bien en tant que contender sur le US Championship de Sheamus.
Bah, ça tombe bien, ils ont cassé le contender d'avant. Là.
Oui, en plus, le contender d'avant là, est out pour un bon moment.
Ouais.
Cela ouvre peut-être une porte, mais il va falloir effectivement faire un payoff pour cette rivalité. Et il va falloir en terminer. Mais ce n'est pas une déception du tout pour moi dans ce Monday Night Raw, à part voilà, le côté cheap de la stipulation définie par Damian Priest à la fin.
Ouais, c'est un petit gamin. Il va falloir qu'il apprenne un peu ce dont on a
envie. Ah, il est green.
Ouais, non, moi je suis quand même très étonné parce que, honnêtement, après le match à WrestleMania qui était chouette, je pensais qu'on allait avoir le lendemain à Raw, là, ce qu'on a eu avec Maryse et puis Damian Priest et tout. Voilà, et on passe à la suite. Je pense que qu'il y a, c'est. Oui.
Non, j'allais dire une connerie, mais j'ai dire que le seul truc qu'on peut donner à Priest là-dedans, c'est qu'il est sympa. Il pense à ses potes du locker room, il pense aux primes de pay-per-view, et comme ça, il fait bosser tout le monde le soir de WrestleMania Backlash. Damian Priest, représentant syndical à la WWE.
Oula, attention, en général, ils finissent mal, ceux-là. Hein. Mais moi, je trouve que, en fait, ce que je pense, c'est que ce Damian Priest, il l'aime bien dans les vestiaires, hein. C'est vrai qu'il est beau, il est costaud, il est assez monstrueux. Ils ont envie d'en faire quelque chose, mais comme souvent, on ne sait pas trop parce que tout le monde est un peu occupé, puis on peut pas faire débarquer un petit nouveau comme ça quand même à chaque fois. Donc ils ont fait tirer la FUD sur le long terme, le Miz et Morrison étaient parfaits pour ça, on n'a même pas trop eu de match à handicap d'ailleurs, donc on s'en sort plutôt pas mal. Et comme ça, on va. Voilà, après tout, on a bien un pay-per-view qui s'appelle WrestleMania Backlash et on a quasiment aucun rematch. D'ailleurs, je crois qu'on en a aucun. Faudra regarder, mais je pense que pour le moment, il n'y a aucun match booké qui est un backlash, un rematch de WrestleMania. Ouais, ouais. Donc, bon, voilà, on continue gentiment. Et puis, dans la foulée, bah, tiens, par exemple, ça peut être un très, très correct participant à un Money in the Bank match ou, comme tu l'as dit, un adversaire hyper prestigieux pour Sheamus ou je ne sais quoi encore. Bon, moi, je continue de penser, hein, on n'en a pas parlé là, tonton, mais que le Miz et Morrison vont finir par faire route séparée. Là, j'ai l'impression que Morrison catch de plus en plus, de mieux en mieux, et ça se passe de moins en moins bien avec le Miz qui lui coûte deux fois d'affilée des matchs. Bon, il peut pas se passer grand-chose à Backlash, parce qu'avec un Lumberjack, ça va forcément se foutre sur la gueule avec des jobbers de je ne sais plus quoi, donc je pense pas que ça va avancer beaucoup, mais je sens Morrison va peut-être déployer ses ailes bientôt. Ouais.
Mon fantasy booking à moi que j'ai, c'est que ça va durer encore quelques semaines entre Miz et Morrison, peut-être quelques mois, même peut-être jusqu'à SummerSlam. Allez, on va donner des dates. Je vais dire jusqu'à SummerSlam. Et peut-être que Monsieur Morrison va aller chercher Madame Morrison pour.
Ah, ça, c'est ton fantasy booking à toi.
Un feu d'entre Madame et Monsieur Morrison face à Madame et Monsieur Miz. Et je sens bien un truc comme ça. Et peut-être même un truc qui nous emmènera jusqu'à WrestleMania 38 avec un mix match à WrestleMania.
Ouh, tu vas loin.
Tu vas aller super loin là. Hein. Okay, on est qu'à WrestleMania Backlash chez moi. Je vous ai déjà fait le booking, mesdames et messieurs, de WrestleMania 38.
Ouais, oui, parce que, alors déjà, revoir Maryse catcher, bon, je ne sais pas, peut-être.
Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Et alors, je sais que tu l'aimes bien, la Tania Valkyrie, c'est ça?
Taya Valkyrie, ouais, enfin,
Tania Valkyrie?
Frankie Monette, exactement,
Ouais.
à la WWE.
Je sais. Elle arrive juste à NXT, ils sont en train de construire un petit peu une gimmick. Je sais pas, je suis pas sûr du tout qu'ils la foutent officiellement en tant que femme de Morrison de suite. Mais
On parle de fantasy booking, hein, donc
oui,
moi
bien sûr. Ah.
je te jette ça comme ça en pâture.
Oui, après tout, Bianca Belair, ils nous l'ont très vite foutu en tant que femme de. Enfin, voilà, ils nous ont très vite avoué voilà, qu'il y avait le couple Belair-Montesford. Donc peut-être qu'ils vont faire quelque chose, effectivement. Mais là, je ne sais pas. Je suis curieux de voir Morrison en solo. Je suis peut-être pas inquiet, mais bon, j'attends de voir. J'attends de voir. Ça finira bien par arriver, je pense. Oh, mais on arrive. Eh ben, écoute, on arrive au main event, hein. Je crois qu'on a tout vu là.
Formidable.
Main event. Le main event de la soirée. Donc, je vous l'ai dit, hein, il aura tout tenté MVP avec Bobby Lashley. Ils auront essayé de parler à Braun Strowman. On ne sait pas au final ce que Braun Strowman a décidé dans sa tête. Peut-être que Shane McMahon avait raison finalement. En tout cas, Drew McIntyre versus Bobby Lashley. WrestleMania rematch. C'est le deuxième de la soirée, hein, mine de rien. Et quelle affiche. Donc là, on est parti chaud, hein. Drew, il veut envoyer du lourd. Donc un match qui commence coup pour coup, violent, le Drew, le Bobby, ça
Oui.
s'envoie des gros coups de poing, ça s'envoie
Du
tout
parpaing.
du parpaing. Drew McIntyre à l'extérieur du ring, il chope Bobby Lashley, il fait une souplesse, il monte sur le turnbuckle, mais Lashley le fait tomber, et ensuite il lui fait son espèce de face first, la prise qui ressemble un petit peu à celle de Shelton Benjamin d'ailleurs. Drew McIntyre qui contre une tentative de souplex et qui l'inverse pour faire une verticale suplex monumentale. Mais comment peut-on porter Bobby Lashley comme ça? C'est monstrueux. Le champion finit par dominer à nouveau. Hein, il charge Drew McIntyre qui était au niveau des cordes. Il le fait tomber à l'extérieur du ring. Il le prend sur ses épaules, ensuite dehors. Il lui envoie la tête et hop, boum, dans le poteau. Ça, c'est grand coup classique. Bobby Lashley il s'élance dans le ring pour un spear, sauf que Drew il l'évite et il fait même une sorte de. Il fait crocheter avec sa main Bobby Lashley qui tombe dans le coin, dans le turnbuckle sur le dos. Drew McIntyre enchaîne les souplesses, les neckbreakers, les spinebusters. À ce moment-là, MVP il se met à paniquer, il tape avec sa canne sur les escaliers pour distraire Drew McIntyre. Ça avait marché à WrestleMania. Ben là, ça marche aussi un peu parce que Bobby Lashley il fait une grosse collision, il reprend le dessus, il tente son Hurtlock, mais ça marche pas vraiment. Il envoie une souplesse, donc il prend Drew McIntyre, il l'envoie de l'autre côté du ring en souplesse. Là, on entend MVP dire He's finished ou He's done, du genre Ah, ça y est, il est fini. Et ben, sauf que tout d'un coup, boum, Claymore surprise. Claymore surprise, dis donc, Drew McIntyre qui s'apprête à gagner. Et non. Parce que Braun Strowman arrive avec sa musique, chouchou le petit train, et il attaque par derrière. Donc on a une double disqualification, je crois, parce que Braun Strowman, il attaque tout le monde. Running Power Slam à Drew McIntyre. MVP commence à croire qu'il a réussi à s'immiscer dans le cerveau de Braun, mais en fait pas du tout, parce que Braun Strowman, eh ben, Running Power Slam à Bobby Lashley. MVP essaye de le taper vainement avec sa petite canne. Braun Strowman lui dit, regarde bien ce que je vais faire à ton copain en attendant. Running Power Slam à travers les barricades qui s'écroulent. Running Power Slam à nouveau sur Drew McIntyre. Braun Strowman déchire son t-shirt qui était un peu trop serré. Là, on a quand même eu de la grosse viande pour un triple threat qui s'annonce monumental. Et alors, on s'inquiétait parfois du booking de notre petit chouchou barbu. Ex-Wyatt Family, mais alors là, c'est lui la montagne en fait, au final, hein, dans cette équation.
Po, 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 po! Mes amis, mon bon peuple de catch-up, commence à envoyer du lourd. C'était solide sur les appuis cette affaire. Hein.
Et comme on dit.
Déjà la semaine dernière, on avait déjà noté un gros main event. On renote un gros main event de 13 minutes 25 avec un finish sans aucune surprise. J'étais totalement convaincu que ça allait se finir en DQ ou en double count out. L'intervention de Strowman, elle est pam, 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 pam! Qui chope la main de Lashley en mode et que le Lashley qui fait un hug et derrière le power slam de l'espace, le running power slam, pom mazette. Oh, ça rigolait pas là. Alors, c'était ce que j'aime, hein. Tu sais bien, de toute façon, hein. Tu connais ça là-dessus. Je suis toujours dithyrambique sur ce genre de choses. T'as même pas besoin de me poser la question, j'y réponds tout de suite. Je suis hypé à mort par ce triple menace à Backlash. Et ce match n'a fait que me renforcer le bel homme, la promo du bel homme avant le début du combat qui se retrouve face cam là, plan serré sur le visage, qui termine en disant qu'il va tout destroy là. Oh là 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 là, je buvais du petit lait, je buvais du petit lait. et le match, je m'attendais tellement à une DQ que je me suis fait avoir parce que je me suis dit que le match allait durer 5-6 minutes. J'ai vu sur mon stream totalement légal que...
Toujours hein, sur Ketchup.
Non, j'ai fait « Ah, bah tiens, c'est étrange. » Et non, bah non, c'était pas étrange. C'était bien le main event de Monday Night Raw du 10 mai, du 1459e numéro, mesdames et messieurs. Et ben, allez voir ce match, allez voir les highlights de ce match. C'était vraiment super cool. Et le Braun, purée le Braun. Comment ça rigole pas? Et ben alors là, Raphaël, tu vois, je suis content. Ça fait deux rows consécutifs qu'on fait ensemble, hein, et à chaque fois, on a des bons main events à mon goût à commenter.
Ah, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai trouvé ce match excellent. Je suis très, très impressionné par, effectivement, la qualité. Celui de WrestleMania, avec le recul, j'ai du mal, parce que c'est vrai qu'il y a eu une sorte de surprise, un petit peu semi-déception, finalement, que Lashley l'emporte. Donc, il était très bon aussi, mais là, du coup, j'ai trouvé qu'il y avait une très très belle affiche. Il y a eu un très très beau combat, effectivement. On est dans une super feud. Alors là, honnêtement, je trouve que depuis plusieurs mois, il faut dire que les feuds des main events, dans les deux shows d'ailleurs, hein, sont quand même vraiment très bien, parce que à Raw, on a eu des très mauvais épisodes de Raw, mais en gros, je trouve que depuis que Lashley a pris le titre, depuis qu'il y a eu cette histoire à Elimination Chamber, on a quand même au moins toutes les semaines des bons gros affrontements avec Drew McIntyre, avec Lashley, Strowman quand même sorti de nulle part, hein. On se rappelle à Elimination Chamber, il y était même pas, il gueulait, et puis là il a réussi à se remettre, il est hyper légitime. Moi j'irais même jusqu'à dire que dans le catch, les momentum c'est important. On a eu un très gros hiver-printemps Bobby Lashley. Moi, si j'avais à être booker là, je pense que je lui fais gagner la ceinture, hein, à Strowman dans ce WrestleMania Backlash, ou en tout cas dans la foulée. Drew McIntyre, je pense qu'il tient tout à fait le rang, mais qu'il est un peu sur sa fin de course. Je ne sais pas si c'est aussi parce que on lit un peu les rumeurs, notamment avec Jinder Mahal de retour, sur un Drew qui va peut-être s'éloigner un petit peu après un an et demi de title picture, qui va s'éloigner un petit peu. Mais je le sens bien comme ça. Par contre, le Braun, il est affûté comme jamais. Il est bon. Enfin, ça rappelle que c'est aussi un bon catcheur spectaculaire. Et puis Lashley, qui transpire toujours un peu comme Lesnar, là, toutes les gouttes de sa peau. Enfin, là, on est vraiment dans du... Le catch, c'est beau parce que c'est la diversité. Et on peut kiffer d'avoir des champions magnifiques, de petits gabarits, hein, des Jay Styles, des oui, Sami. Voilà. Mais là...
Toute la nuance, tu vois, moi j'aime les luchadors virevoltants, et pourtant je suis aussi un adepte convaincu des colosses énormes du catch mondial.
Là c'est la Grèce antique en fait, c'est les titans, c'est effectivement les mercenaires, quoi. C'est les gladiateurs, ils sont transpirants, ils sont muscles saillants, c'est beau à voir, c'est cool, et je suis très hypé par ce match, je pense que WrestleMania Backlash part sur de bonnes bases, ça veut rien dire, mais en tout cas, a beaucoup de promesses à tenir. On espère qu'il les tiendra, mais sur ce Go Home Show, quand même, costaud. On a fini cette road pour la division de Monday Night Raw, en tout cas. Écoute, tonton, puisque c'est la fin, avant qu'on parte à Backlash se défoncer la tronche, on va un petit peu donner notre note, notre flop, notre top pour ce dernier Monday Night Raw. Alors écoute, si tu permets, on va dire honneur aux absents. Donc je vais
comme tu veux, si tu veux, je les avais devant les yeux aussi.
Ah ben ah ben oui, mais on en a deux. Ah ben écoute, je vais dire celui de Papy, et puis
Vas-y.
tu vas dire celui de Zygote, et puis tu enchaîneras avec le tien. Parce que
Ça
celui de
marche.
Papy, tu peux pas le lire avec ton contrat avec Axel, là, souviens-toi.
Exactement. Tu
Ouais,
as
donc.
bien retenu les termes juridiques de ce contrat.
C'est ça. Donc Papy lui donnait son top à Randy Orton, qui maîtrise à la perfection son personnage. Par contre, voilà, Papy, un peuple de ketchup, peut-être une opinion impopulaire, comme on dit, de Papy, mais lui, il aime pas du tout Morrison qui fait de la danse ou de la gym, nous dit-il. Ça lui rappelle les pires heures du style parcours à deux balles, et ça lui rappelle Reginald. Donc voilà, autant qu'il reste au micro à assister le Miz. Il est méchant, Papy. Mais il met quand même un bon 3 à cet épisode, parce qu'il considère qu'il y a eu un bon main event, les tag teams, qu'il y a eu un pay-per-view bien buildé. Mais il trouve que ça reste un peu faiblard au niveau des histoires. Bon, voilà, Papy nous en dira plus le jour où il sera présent. En tout cas, un Papy plutôt content quand même. Qu'en est-il de notre ami Zygote, notre petit nouveau tonton?
Ah, le zygote qui a failli nous rejoindre, mais qui s'est lamentablement planté avant l'entrée dans le studio. On était trop rapide. Big up, zygote. Alors, le coyote, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte son flop. Son flop, c'est le tag féminin plus la bouse avec Alexa Bliss. Alors là, ouais, chez zygote, le segment Alexa Bliss, ça passe pas. J'ai trouvé ça sans grand intérêt. À vouloir mettre Alexa dans la title picture, ils auraient dû peut-être attendre après WrestleMania Backlash. Bam! Top! Le main event, avec tout ce qui se passe post-match. Le combat était tip-top, comme d'habitude. Strowman qui look strong, même sans être fan de lui. C'est plutôt cool comme segment. Mais on sait qu'il va le perdre à WrestleMania Backlash, classique WWE style. Note 3,
Un
lui
spoiler.
aussi. Ouais, 3 sur 5. Je suis plus généreux que d'habitude pour Raw. C'est rare. Abonnez-vous! Ah, la bonne parole.
Et toi, tonton?
Eh ben, on a 2-3, hein, on a 2-3. Alors, concernant le Luchasaurus, je vais donner également, parce que je vois pas comment je peux faire autrement, même s'il y a eu beaucoup d'autres choses qui m'ont plu dans ce Monday Nitro, je vais le donner à nouveau, comme la semaine dernière, sans surprise. Je suis peut-être trop prévisible, je deviens trop vieux, mais je le donne au main event, parce que voilà, tout ce qu'on vient de dire avec le jeune Raphaël hier. Peuple de catch-up, sachez que je n'en retirerai pas un seul mot. Le bel homme face au Bobinator, c'est quand même de la bonne cam. Et ce WrestleMania de Backlash, on va vous hyper. Vous inquiétez pas, vous aurez les promos pour le SmackDown. Vous allez voir, ça va chauffer.
Bien sûr.
Mon flop, eh ben écoute, je vais le donner à, je ne sais pas comment dire ça, à la malchance, à la malédiction, au risque du métier. Pour Humberto Carrillo, alors ce n'est pas à lui bien que j'adresse le flop, hein, c'est bien à la malchance. Voilà, c'est triste en direct live d'avoir une blessure grave comme ça.
Ouais.
Voilà, c'est toujours un truc moi qui me secoue un peu.
Ah bah,
Alors,
tu m'étonnes.
quand tu regardes des sports de combat en général, de toute façon, ça fait partie des risques. Et ça m'a, voilà, ça m'a un peu chagriné. J'espère qu'il se remettra le jeune Umberto. On pense à lui, à Ketchup. On est ému.
Ouais,
Voilà, pour lui.
ça me fait penser que j'ai oublié de décrire un segment qui était tout à fait oubliable, mais on aura sûrement une revanche entre Angel Garza et Drew Gulak aussi, qui se sont invectivés en coulisses. J'y pense, je sais pas,
Ouais.
Carrillo, ça me fait penser à Angel Garza, mais bon, c'était un peu anecdotique ça quand même.
Plus j'y pense et plus j'oublie.
Voilà.
Et ma note, mon bon Raphaël
Mais
hier,
oui, ben oui.
quand même, ma note, parce que ma note va être très bonne, parce que j'ai trouvé ce Raw très bien.
Ben
J'ai
oui.
trouvé que même les filles, c'était sûr. Alors Zygote a envoyé la Kalachnikov. Moi, je suis plus raisonnable, plus indulgent sur cette affaire-là. J'ai trouvé qu'elle s'en était bien sortie avec un opener, avec un vrai match de 8 minutes 40. Alors oui, Reginald fait des acrobaties. Oui, Reginald fait des flips arrière. Oui, Reginald est un ancien du Cirque du Soleil. Mais là, il y a eu un vrai match. Il y a eu un vrai truc. On n'a pas beaucoup parlé de Mandy et Dana, mais elles continuent leur petit bonhomme de chemin, mine de rien. Et Asuka qui, quand même, participe à deux matchs dans la soirée.
C'est vrai.
Le retour de Jinder Mahal. Le tag team, le 4 contre 4, super bon. Le catch à 4, super bon. Le catch à 8, même, super bon. Et la tag team division qui se porte presque, presque à merveille dans le vaisseau amiral. Juste la tristitude de Shelton Benjamin Alexander, voilà, tout ça mis bout à bout, le match féminin à Ripley Asuka, enfin franchement, on avait un Monday Night Raw dense, avec du catch, avec du temps de catch, avec toutes les ceintures représentées, toutes les feux de majeur mis dans la balance. Je considère que Monday Night Raw a livré la marchandise. J'avais donné un 3 la semaine dernière. Et bien cette semaine, Raphaël hier, accroche ta ceinture. Mais moi, cette semaine, je mets un 3,5 à Monday Night Raw.
Mais t'as tout à fait raison. Écoute, je ne vais pas faire languir le public. Je donne la même note. Moi, je trouve que ça mérite... Sans souci, ça mérite un 3,5. Il n'y a pas de mauvais segment, même si pour moi le flop est très facile à désigner. Je suis d'ailleurs curieux que personne ne l'ait dit, mais pour moi le flop, c'est le choix de la stipule de Damian Priest, qui nous a fait ce qu'on appelle un anti-climax moment, c'est-à-dire qu'on est là, waouh, what a stipulation! Et puis hop, bah, il est là tout transpirant, il veut un lumberjack. D'accord, comme ça on va voir un petit peu les mecs du titre 24-7, formidable. On va peut-être voir Jeff Hardy en pay-per-view du coup, mais ça c'était la petite flop. Après je suis pas non plus très fan du passage Alexa Bliss, enfin c'est pas que je suis pas très fan, je trouve ça intéressant d'enfin la revoir, par contre j'ai peur, si on part sur une histoire où elle fait des... Enfin, si on se met à voir des filles qui se mettent à cracher du pétrole et autres conneries, là, comme on a eu pendant des mois avec Orton, ça, j'ai pas envie. Donc, c'est pas un flop, mais c'est un gros Hartung, point d'exclamation. Attention, danger. Et pour le reste, bah, écoute, je suis d'accord avec toi. J'ai trouvé qu'on a eu des belles partitions, beaucoup de monde. Si on m'avait dit que le Raw, après le retour d'Eva Marie, il y aurait un Raw avec le retour de Jinder Mahal et que tout ça, ce serait des bons shows, je l'aurais peut-être pas cru. Mais c'est bien. Et puis, évidemment, là, je crois qu'il y a un plébiscite pour le main event qui a mon top. Voilà. Là, on est dans du catch. C'est bien, je trouve, quand dans un show... Et le main event et les champions, tu te dis, c'est vraiment les plus forts, quoi. Et ça arrive pas toujours, parce que des fois, t'as ce qu'on appelle des champions par intérim, ou des rivalités par intérim, et puis là, par contre, voilà, on a, boum, les piliers, quoi. Les piliers au sens propre du terme sont là, donc c'était un très bon show.
Ah, le pay-per-view mis en avant, et un vrai gros go-home show, comme on aime, de la WWE, avant un pay-per-view. Et alors les ratings seront pas forcément en leur faveur puisque ce Monday Night Raw du 10 mai a fait 1 817 000. Ils sont en baisse de 3%. Ils sont à 0,53 sur les 18-49 ans. Je suis presque surpris. Je m'attendais à un meilleur score. Comme d'habitude, une première heure à 1 912 000. Ils flirtent avec les 2 millions. Et alors qu'ils retombent, ils perdent 200 000, imagine, dans la troisième heure, puisqu'ils sont plus qu'à 1 710 000 dans la troisième heure.
Ouais, mais ça, c'est difficile. Ça mériterait presque qu'on pourrait faire un jour un catch-up sur l'histoire des ratings, parce que moi, je trouve ça dur. Je ne suis pas sûr que la qualité du show du soir influe vraiment les ratings du soir, parce que ça dépend des autres programmes, ça dépend de ce que les gens font. En fait, pour moi, c'est vraiment, il faudrait une continuité de qualité sur plusieurs semaines pour voir si les gens restent ou augmentent. Mais par définition, si tu ne le regardes pas, ce qui est à ta télé, si tu ne fais pas l'effort de zapper ou de tomber dessus, même si c'est très bon, si celui des trois dernières semaines était pourri, tu ne vas pas forcément le regarder. Donc, les ratings, c'est un mystère.
La semaine dernière, il y avait déjà du mieux. Ouais. Et depuis la sortie de WrestleMania, ça va un peu mieux à Monday Night Raw. Moi, j'ai du mal à... Quand il faut mettre des mauvaises notes et quand les choses sont vraiment pourries, etc., je n'hésite pas à le dire, mais je considère que je ne viens pas à catch-up pour taper sur la WWE.
Mais non, bien sûr.
Et fatalement, je préfère quand je peux donner des bonnes notes à un show et mon ressenti... sur Monday Night Raw depuis 2 semaines, et là, deuxième lundi consécutif, un back-to-back, et qui est bien cool. Clairement, j'ai pris du plaisir à regarder ce Monday Night Raw cette semaine.
Et moi aussi, et j'en ai pris du plaisir à la reviewer avec toi, l'ami Chris, donc merci de ta présence, un bon show, un bon catch-up aussi, je crois.
Ah, plaisir partagé, mon cher Raphaël. Yeah.
Voilà, bon, on a fait la petite promo en début, donc je vais la resynthétiser, mais où que ce soit, voilà, pour nous écouter, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Catch Up, on est partout, donc vous connaissez la musique. Et vous restez avec nous parce que tonton Chris, il ne sort plus du studio d'enregistrement. Hein. On lui fait passer des petits sandwichs triangle sous la porte. Il n'arrête plus parce qu'il podcast nos reviews, mais il fait aussi les fameux You Talk Too Much, donc où il retrouve la fine fleur du catch français. C'est formidable parce que tonton Chris, il interviewe tout le monde. La preuve, je suis passé sur le grill. Il interviewe des fans de catch-up, il interviewe des fans de catch, il interviewe des catcheurs, il interviewe des promoteurs, des commentateurs. Donc voilà, on a du très lourd qui arrive, du très lourd qui est sorti, notamment le cher Ravage qui est en ligne. Et on en a encore qui va venir. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut spoiler quelques...
Non, mais on peut citer déjà la taloche du catch, Tao.
Bien sûr.
Faire l'ouverture des reviews à IW pour le Blood and Guts qui est en ligne.
Oui, ça aussi, oui, bien sûr.
NXT tenu de main de maître par Ringside et Papy aussi de la semaine dernière, pareil, toujours en ligne, comme NXT et IW sont pas encore sortis cette semaine. On n'a pas encore vu les shows, donc c'est bien là et de pouvoir rappeler ça. Et puis, You Talk Too Much, oui, écoute, on peut spoiler juste quelques petites choses. On peut vous dire qu'il y a deux You Talk Too Much qui sont dans la boîte déjà. Qu'il y en a un troisième en préparation à l'enregistrement cette semaine prévu.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? On peut vous dire que la date de l'émission anniversaire est quasiment entérinée. Il ne reste plus que quelques détails à gérer. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ?
Écoutez-nous.
Abonnez-vous. Abonnez-vous partout. Partout où vous nous trouvez, abonnez-vous. J'espère que vous prenez autant de plaisir à nous écouter que nous à enregistrer. Et comme dirait l'ignoble Ringside, c'est entièrement gratos.
Voilà, et comme on dirait tous les uns les autres, merci beaucoup de nous écouter. On vous dit à très bientôt sur Catch Up. Ciao tonton, ciao à tous.
Salut Raphaël, yeah, des cordes à l'instinct de la face. Salut peuple de Catch Up. Raphaël, j'espère que t'as laissé un com à Ravage, parce que sinon je vais te coller un Nukisator dans ta face.
Oui, j'évite d'être ravagé, t'inquiète.